On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler encore une fois entrepreneuriat, pour parler encore une fois de 5 premières fois avec un invité aujourd'hui qui s'appelle Alan Raymond, qui m'a rejoint, qui est photographe et réalisateur. Je suis très heureux aujourd'hui de l'accueillir. Alan, bonjour, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ?
Merci de ton invitation, Alexandre. Alors moi, c'est Alan. Je suis photographe, réalisateur et j'ai monté une agence de communication inclusive LGBT friendly et je suis aussi un mec trans entrepreneur.
Merci pour ces précisions. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire davantage par rapport à ton activité LGBT friendly, c'est-à-dire, vas-y, dis-nous un peu plus de détails. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui nous écoutent ?
Bah, ça signifie en fait que ce qui paraît être normalement une normalité pour beaucoup de gens, c'est-à-dire être gentil, être doux et respecter les identités de genre et les orientations sexuelles de chacun chacune. Bah là, je l'ai un petit peu formalisé et j'ai créé dans une agence où en fait c'est obligatoire d'être gentil et bienveillant. Moi, j'ai beaucoup manqué dans l'espace safe dans le travail pour à la fois me faire accompagner mais aussi avec mes propres clients. Donc j'ai créé l'agence que j'aurais aimé avoir à mes débuts, une agence dans laquelle on se sent bien accompagné, aussi une agence qui accompagne les personnes qu'on dit atypiques, donc des personnes qui ont été neuroatypiques, les personnes qui prennent des chemins un petit peu non binaires. Le monde du travail est assez binaire, assez cadré. Il y a des entreprises qui fonctionnent un peu différemment. Parfois, on travaille sur des marchés ou sur des activités un peu hors normes. Parfois, avec des modalités hors normes. Parfois, on a plusieurs activités. Et moi, j'accompagne un peu tous ces gens-là qui ont besoin d'un accompagnement à la fois sur mesure, mais aussi bienveillant et sécurisant d'un point de vue émotionnel. Et puis aussi pour leur permettre de faire des choix qui soient adaptés à leur fonctionnement propre et pas juste parce que c'est ce qui doit se faire. Il y a beaucoup d'injonctions dans la communication, donc j'essaye de prendre tout ça à contre-pied et de permettre aux gens de se mettre au centre de leur vie, de leur business, sans rougir et sans s'excuser.
Et en s'assumant, comme tu dis, tu t'es lancé justement dans l'entrepreneuriat pour avoir une culture d'entreprise qui te ressemble, pour assurer aussi un petit peu ce changement par rapport à toi, ta personne. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Je suis très content que tu puisses justement en témoigner et en parler ouvertement, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir des regards ouverts, d'être justement intéressé sur des sujets qui ne sont pas, entre guillemets, des sujets qui pourraient être la norme, entre guillemets. Et justement, c'est bien de t'avoir là et je suis très content justement pour en parler librement. On va du coup attaquer ta première fois qu'on a déjà validée ensemble. Une première fois pas forcément très cool à aborder, mais bon, ça fait partie un petit peu justement du surmenage qu'un entrepreneur peut avoir en fonction de son travail et de l'acharnement qu'il donne au quotidien. C'est ton premier burn-out. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu l'as vécu et ce que t'as ressenti justement à ce moment-là ?
Ouais, bah, on est beaucoup à être passé par là. Moi, j'ai aussi compris du fait d'être trans et d'avoir passé 32 ans caché et pas vraiment au bon endroit dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y a, en tout cas a posteriori, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait avant qui étaient pour soit me fuir, soit me cacher, soit ne pas affronter certaines choses. Et donc le travail, ça a été, mais je pense comme beaucoup de personnes, un peu une fuite et un espace ressource dans lequel je me suis plongée jusqu'à un peu noyée, suffoquée de ça. Et puis j'ai commencé très jeune, j'avais pas eu d'expérience de salariat avant, je me suis mis dans l'entrepreneuriat très vite, très rapidement, et j'avais pas forcément de recul sur mon organisation, mon écologie personnelle, sur mon propre corps, les signaux, j'avais pas non plus de personne avec qui prendre des pauses, donc je me suis vraiment isolée et j'ai monté mon truc et j'avais des contacts avec des personnes que dans le cadre de ma clientèle ou de mon réseau, ce qui fait que j'avais pas forcément de regard et de miroir sur ce que je faisais, comment je faisais, et je suis aussi monté ma boîte à 22 ans, donc j'avais pas non plus beaucoup de personnes de mon âge qui faisait ce que je faisais. Donc, ça a augmenté beaucoup, en tout cas, ça a favorisé l'isolement et le fait que j'aurais pu m'arrêter plus rapidement. Donc, je suis allée jusqu'au craquage, je suis allée jusqu'à un stade où, en fait, je ne pouvais plus supporter de rencontrer des gens, de fréquenter des gens. Je commençais à avoir les larmes aux yeux quand mon téléphone sonnait, je commençais à avoir des tremblements, je faisais des insomnies régulières. C'est pas que à cause du travail, mais ça a aussi beaucoup participé au fait d'être à cran. Et puis surtout, j'avais pas appris à la fois séparer de mon business de ma vie. Et c'était vraiment, j'étais corps et âme pendant les 5 premières années. Donc j'ai pas mis de garde-fou pour mon écologie. J'avais pas forcément les moyens de partir en vacances. Et j'avais aussi d'autres sujets perso un peu compliqués à traiter qui faisaient que j'étais toujours dans un truc d'urgence et de survie à un point où en fait vraiment le travail c'était ok je travaille je réfléchis plus mais du coup j'ai eu la revers et de la médaille un peu violemment.
Et comment justement tu ferais aujourd'hui différemment, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous écoute qui justement pense que voilà ça le touchera pas ce burn-out, alors que si on a un petit peu les mauvaises méthodes à accumuler un petit peu trop de travail, à s'enfermer dans sa bulle comme tu l'as décrit, c'est quoi que tu conseillerais justement à une personne pour éviter qu'elle tombe dans ce burn-out?
C'est difficile hein, parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne va pas sentir un peu ses limites, on peut pas mettre de garde-fou, on peut pas s'en rendre compte avant de ah là je suis en train de frôler la limite. Donc moi aussi j'avais besoin aussi de sentir la limite de manière très frontale pour mettre des choses en place après dans ma vie pour être sûr de pas y retourner. Bon après j'y suis un petit peu retournée aussi, mais voilà, pour moi il y avait cette histoire de tester des limites qui était intéressante. Et puis en tout cas dans mon cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais l'isolement ça m'a vraiment pas aidée parce que j'avais pas de, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas forcément de miroir ou de bonnes pratiques. Donc vraiment, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas être trop isolé dans son entreprise et pas hésiter à fréquenter d'autres personnes, à co-worker avec d'autres personnes, à avoir des associés, à avoir des collègues et à se confronter aussi d'un point de vue organisation et même juste travailler côte à côte d'autres personnes pour aussi avoir se synchroniser avec d'autres personnes et puis prendre des pauses en même temps, voir comment les autres font. Et puis après, il y a eu des choses qui ont été extrêmement soutenantes. Bah, clairement, la thérapie, moi, comme je disais, je me suis plongée dans le travail pour peut-être pas regarder certains sujets. Et bon, je dis ça, mais j'étais quand même avec une thérapeute et des psys à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que les gens, ils ont un peu pris conscience que si on travaillait trop, c'est qu'on avait certainement quelque chose à fuir ou à pas vouloir regarder. En tout cas, il y avait un sujet derrière, un sujet perso sous-jacent. Je pense qu'il est important d'aller regarder avec des professionnels et avec honnêteté pour ne pas se nourrir du travail alors qu'en fait il y a peut-être d'autres sujets. Moi clairement c'était la peur du vide, c'était l'impression de ne pas avoir de sens, j'avais vraiment l'impression que je devais pas forcément, j'avais pas ma place ou que je devais pas exister. Il y avait vraiment un truc de dépression chronique là-dedans qui était très forte, et le travail, c'était une manière de trouver la sociabilité, de l'action, de me faire un cadre. Donc, il fallait aussi trouver l'équilibre dans tout ça, et seul, c'était pas simple.
Pas simple, ouais, j'imagine bien. Et puis, ce que tu dis, forcément, ça touche beaucoup. Moi, je l'ai vécu aussi. Et puis, ce que je retiens par rapport à tous les échanges que je peux avoir avec les entrepreneurs, c'est s'entourer, vraiment s'entourer. Tu l'as dit, networker, aller rencontrer des gens. Si on n'est pas encore ouvert à l'association, on ne va pas se forcer à s'associer avec quelqu'un. Mais en tout cas, échanger avec quelqu'un qui pourrait comprendre justement ce qu'on vit au quotidien. Pas forcément quelqu'un qui est issu du même domaine d'activité que nous, mais quelqu'un, en tout cas, qui comprendra que, voilà, on peut avoir des nuits blanches, on peut avoir des insomnies parce que ça nous embête plein de sujets comme la recherche de clients et comme d'autres sujets qui peuvent être pesants, en tout cas quand on est entrepreneur et à son compte. On arrive du coup à cette deuxième première fois où tu vas nous parler de ton premier coming out. C'est-à-dire que tu étais donc une femme avant, tu es devenue un homme. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça, comment ça a eu un impact par rapport à ton travail notamment, parce que là on parle vraiment au niveau environnement professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur, j'imagine, la partie la plus peut-être riche, importante, c'est toi qui vas trouver les mots pour ça, de ta vie aujourd'hui?
Ouais, alors juste pour préciser, ça se dit pas trop de dire qu'on est devenu un homme ou que j'étais okay. Une femme avant, c'est plus du coup on dit que j'ai transitionné ou que j'étais identifiée comme une femme ou que j'étais assignée femme à la naissance et que j'ai décidé de transitionner. Et après, bon, il y a aussi plein de manières de dire qui peuvent trigger plus ou moins les personnes trans. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. En fait, j'ai réalisé très tard que j'étais trans. Donc, j'avais 28 ans, 29 ans. Il m'a fallu quelques années pour me le verbaliser à moi-même. Donc, j'avais compris le truc, mais j'ai mis du temps à le verbaliser, à le dire après à d'autres personnes. Et je suis arrivée à... Il m'a fallu quelques années encore plus pour oser le dire dans le monde du travail et donc faire mon coming out public. Donc, je l'ai dit dans ma newsletter, je l'ai dit sur Facebook, sur mes réseaux, sur Instagram, que voilà, en fait, vous m'avez connu pendant 32 ans et en fait, je ne suis pas une nana et je vais faire une transition hormonale de genre et je commence ma transition sociale. Donc, j'ai fait le choix. Après, toutes les personnes trans ne transitionnent pas, toutes les personnes trans ne font pas une transition hormonale, médicale. Moi, c'est vraiment des choix qui m'appartiennent et qui m'ont sécurisé. Mais du coup, j'ai changé d'identité, j'ai changé donc d'entreprise, j'ai changé de statut d'entreprise, de nom d'entreprise, de branding. Enfin, je me suis pour le coup fait un branding que j'avais pas avant. J'ai changé de positionnement, j'ai changé de... Du coup, j'ai commencé à faire une transition hormonale médicale. Donc, je suis sous hormone depuis un an et demi.
Ok.
Donc, ouais, j'ai dit à tout le monde... je pense que c'était le truc le plus dur de ma vie d'entrepreneur et de ma vie tout court, de dire à tout mon réseau, voilà qui je suis, sachant que quand on a quelque chose de très important à dire, on est hyper vulnérable. Et puis, c'est tellement un sujet qui est compliqué, puis qu'il était aussi pour moi, parce que je savais avant de me renseigner par nécessité parce que j'allais mal et parce que je comprenais qu'il y avait quelque chose dans le genre qui n'allait pas. Je savais pas ce que c'était une personne trans. Donc, en fait, pour moi-même, c'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de... On appelle ça la transphobie intériorisée. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose de bizarre. En tout cas, ça me concernait pas. Et en tout cas, c'était loin de moi. C'est même pas que ça me concernait pas, c'est que j'en ai pas conscience que ça existait. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et le verbaliser, être à l'aise avec l'idée. Et le moment où, en fait, où tu le dis aux gens, c'est un peu le début du processus, c'est le début des changements. Et surtout, tu sais pas comment les gens vont réagir. On est dans un pays qui est extrêmement tendu par rapport au sujet. Et surtout, ça te précarise parce que ça te met dans une petite case. Ça demande énormément de temps, en fait. Clairement, au-delà du voyage personnel qui est hyper vulnérable, hyper compliqué, qui est vraiment parfois difficile, mais qui peut être aussi très simple pour plein d'autres. Il y a autant de parcours de personnes trans que de personnes trans. Chacun le vit de manière personnelle. Et puis, il y a des contextes aussi plus ou moins faciles. À 30 ans, à 20 ans, avoir du soutien et pas avoir de soutien, ça joue beaucoup dans comment tu vas vivre le truc. Mais pour moi, il y avait un des énormes sujets, c'est dans ma vie pro, je n'étais pas au bon endroit. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer. J'ai passé 10 ans à me faire un réseau, à me faire connaître. En plus, mon nom d'avant était connu dans mon réseau et je m'étais vraiment fait connaître avec ça. Et c'était le nom de ma boîte. Il a fallu tout changer et entamer une réflexion de maintenant, je fais quoi ? Et surtout, prévoir du temps, de l'énergie pour se gérer soi personnellement, mais aussi faire les démarches. Et c'est des démarches qui sont extrêmement compliquées. Donc, quand il y a une logique aussi de business derrière, ça met un énorme coup en plus du coup personnel, en plus du coup de forcément, j'ai perdu des gens en cours de route. Je me suis aussi confrontée à des gens qui ne comprennent pas, des gens qui n'acceptent pas, et aussi au danger qu'en fait, que ça me met nécessairement, parce que dans une société qui est presque transphobe et pas du tout ouverte à ça. Donc nécessairement, mes clients, je ne savais pas s'ils allaient être sécurisants pour moi, je ne savais pas ce que ça allait m'amener comme problème supplémentaire et j'en ai découvert des tas et des tas de problèmes relationnels, administratifs, personnels avec cette transition, quoi. Ouais.
Déjà, c'est très, très fort, très courageux de te livrer ici, en tout cas, sur tout ça. Désolé pour tout à l'heure si justement j'ai mal un petit peu fait cette transition par rapport à ton changement. Notamment, l'idée, c'est vraiment d'être clair pour que les gens puissent vraiment bien comprendre aujourd'hui par où tu es passé aussi, même si je pense qu'on est à 10% d'imaginer seulement ce que tu as pu vivre. Là, on ne parle pas de changement de boîte seulement, on parle de changement complètement de corps, notamment.
J'ai aussi déménagé, hein, j'ai avec une transition, en fait, y a beaucoup de choses qui arrivent en fait dans toute cette prise de conscience qu'on n'est pas au bon endroit. Donc j'ai déménagé, j'ai changé de clientèle, j'ai changé de partenaire de vie.
T'as tout changé,
j'ai toute ma vie à changer.
Où est-ce que tu as été chercher cette force justement pour t'assumer? Parce que moi, je parle souvent dans l'entrepreneuriat, sur mes posts, sur pas mal de choses, du fait de s'assumer. Là, c'est pas tu t'assumes, c'est tu t'assumes à 17 milliards de pourcents, dans le sens où aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui peuvent ne pas comprendre, mais quand on est dans un corps aujourd'hui qui ne nous correspond pas, pourquoi justement s'entêter, entre guillemets, et vivre une vie qui, justement, ne serait qu'un regret et des échecs par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses qui évoluent. Comment tu vas chercher cette force? Comment tu vas puiser dans tout ça pour, justement, te faire accepter aussi? Et est-ce que c'est plus fort que toi? C'est quoi qui bat au fond de toi et qui fait que tu passes le cap?
Bah c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça et qui le disent, hein, que c'est courageux, que c'est incroyable. Et en fait, oui, ça demande du courage, mais c'est pas un courage que j'ai décidé d'avoir ou que j'ai en plus de la moyenne. En fait, c'est vraiment une nécessité de trouver un endroit où tu te sens à l'aise et bien, et surtout juste. C'est juste le constat que c'est moi et que du coup, je ne vais pas lutter contre moi. Et en fait, ça prend beaucoup plus d'énergie et de courage. En fait, clairement, le vrai courage, il n'est pas de... Alors oui, c'est un courage, certes, mais il y a aussi un autre courage qu'on ne voit pas. C'est les 30 années que j'ai passées à essayer de rentrer dans une vie, dans un contexte, dans un travail, dans une posture et un rôle qui n'était pas du tout le mien et que je performais ma vie. Je performais mon rôle de femme, je performais dans la séduction, dans mes clients, dans mon travail, dans ma manière de m'habiller. Et c'était un casse-tête beaucoup plus compliqué que aujourd'hui juste faire ce que j'ai envie de faire et être qui j'ai envie d'être, m'habiller comme je veux m'habiller. En fait, je me sens... Certes, la transition, elle est extrêmement compliquée parce que ça t'arrache d'un endroit et tu vas à un endroit qui est souvent vachement opposé. Et du coup, la transition, elle est complexe pour toutes ces raisons-là, pour... La charge de travail, la charge de réflexion, la transphobie, la dangerosité, et puis les fluctuations, et puis les changements que ça induit en fait dans ton rapport aux gens, dans ton rapport à toi-même. C'est un vrai voyage. La transition, c'est quelque chose de très intense. Puis aussi, c'est hormonal. Donc, tu vis une deuxième adolescence, il y a tout un sujet avec ça. Mais il faut pas oublier qu'en fait, avant ça, j'étais... en train de constamment me demander comment je peux être acceptée par les autres et comment je peux faire pour être dans un rôle qui ne m'allait pas. Donc, en fait, ça m'a explosé à la gueule à un moment donné. Les burn-out, c'était aussi des signaux de ça. Hein. Clairement, il y en avait plein d'autres. Et en fait, ce n'est pas une sorte de courage, c'est une histoire de forcément... J'aime bien cette phrase que ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais plus qui avait dit ça. Naturel, chasse le naturel, il revient en galop. Ben, en fait, à force d'essayer de se contenir et de rentrer dans un truc... de se rendre compte que ce moule-là, il ne nous correspond pas, on ne rentre pas, bah, en fait, ça pète. Donc, tu peux pas te forcer très longtemps. À force de jouer un rôle, en tout cas, tu perds en énergie. Et c'est un truc qu'on observe aussi avec l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui me vidaient d'énergie parce que je travaillais trois fois plus pour pouvoir faire des trucs de base, comme juste m'habiller, me sentir à l'aise au téléphone, me sentir bien, même juste physiquement avec moi-même. Donc en fait, j'ai pas eu le choix parce que j'étais dans un niveau tel de dépression, de perte de sens, de pas me sentir bien, de galérer dans mes relations, de pas arriver à me faire aussi à tenir des amitiés parce que j'étais pas tellement pas moi-même que maintenant j'ai fait le plus dur dans la transition, ça fait 3 ans que je suis en transition, mais maintenant la vie elle est plus simple entre guillemets parce que c'est moi et je suis plus en train de m'excuser d'exister et de vouloir à tout prix exister dans le regard des autres pour combler ce manque d'amour, d'estime de moi. Donc
c'était pas du courage, c'était vraiment une nécessité, c'était un vrai besoin pour toi en fait de pouvoir jouer ton propre rôle et ne plus jouer ce rôle que tu as eu pendant des années, tu l'as dit quand tu étais femme, à séduire justement, donc faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire ou tu te sens vraiment pas bien, d'où cette complexité aussi à nouer des relations.
Et la pression sociale aussi qui est liée à tout ça, elle est énorme. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression d'avoir un poids en moins, mais j'ai tous les inconvénients qui vont avec. Donc perdre des relations, me rendre compte que les gens autour de moi sont pas forcément soutenants, tous les problèmes administratifs que ça engendre, et puis toute l'énergie que je déploie pour aller vers cet idéal que j'ai envie d'atteindre. Et ça, c'est pour le coup très chronophage, c'est coûteux, c'est financièrement, c'est intense et ça précarise beaucoup. C'est pour ça que je suis engagée dans la visibilité des personnes LGBT, parce que de fait, d'être issue d'une minorité aussi, ça précarise dans tous les sens. Et donc j'ai envie de visibiliser et permettre aux personnes qui ont des parcours comme ça ou des situations personnel, médical, complexe, de prendre plus leur place. En fait, c'est tout simplement une question de privilège, quoi.
C'est bien d'en parler. C'est très intéressant pour ceux justement qui se posent des questions sur ces sujets ou en tout cas qui n'assument pas forcément pas mal de choses sans aller justement à changer de corps. Mais en tout cas, quand on n'est pas bien dans un rôle, dans une manière d'être, en tout cas, c'est important de faire le nécessaire pour justement s'assumer et être en tout cas en phase avec qui on est. Tu as parlé tout à l'heure du coup de ton entourage, donc perso, mais professionnel. Moi, c'est celui-là aussi qui m'intéresse parce que tu as évoqué du coup la newsletter, tu l'annonces carrément à tes clients. Comment ça a été perçu? Comment ça a été justement vu aussi sur les réseaux? Parce qu'on sait que les réseaux, à quel point ils peuvent être horribles. Si demain tu fais un post un petit peu virulent, entre guillemets, sur un sujet donné, bon, les gens te tombent dessus. Là, on parle quand même d'un post d'un sujet qui est beaucoup plus profond pour certains, où justement il n'y a pas encore cette ouverture d'esprit. Comment ça a été perçu? Comment ça, tu l'as vécu? J'imagine que ça a été un soulagement pour toi de le dire, mais est-ce que la retombée par rapport des fois aussi à la violence des réseaux n'a pas été un coup de massue supplémentaire?
Je pense que j'avais la chance. C'est aussi pour ça que je lis beaucoup ma transition avec mon milieu du travail. C'est que j'avais passé 5, 10 ans à créer un réseau, à créer une clientèle avec des personnes qui sont douces, bienveillantes. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à orienter de plus en plus vers cette envie de bienveillance et d'ouverture d'esprit. J'étais aussi dans un coworking. Créatif au Pôle Pixel, où il y avait beaucoup d'artistes, d'ingénieurs qui créaient des projets, des artistes visuels. J'ai aussi accompagné des artistes. Donc, j'étais plutôt dans un environnement, parce que je l'avais construit, plutôt ouvert, voire vachement ouvert. Et j'ai réussi à faire ce pas de je vais en parler. Déjà parce que je pouvais plus me cacher, à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Et parce que j'avais commencé à communiquer. Et c'est aussi pour ça que je lis beaucoup la communication avec tout ça. J'ai passé le cap parce que je savais que j'avais un réseau de soutien et qu'il y avait au moins dans tout ça 50% des gens qui allaient rester. Et en fait, j'ai commencé par le faire sur Facebook. J'ai quand même beaucoup de mon réseau aussi pro qui était sur Facebook. Et j'ai fait un post, mais assez long, et une vidéo aussi. Et j'étais évidemment tétanisée, j'avais super peur de passer ce cap. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Vraiment, tu sautes dans le vide et tu sais pas comment ça va être pris. Aussi parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et des grosses entreprises. Donc, il y avait tout ce sujet-là de comment être crédible, comment arriver à vivre avec ça dans un univers qui parfois n'est pas du tout ouvert à ça. Et en fait, j'ai vraiment une vague d'amour et de soutien, mais incroyable. J'ai eu de la chance, enfin, après, il y a la chance qu'on se crée aussi, mais j'avais créé ce truc-là qui était solide, les gens étaient solides, et j'ai reçu beaucoup de messages, comme j'avais jamais reçu, en fait, de soutien, de personnes, tu vois, avec qui j'avais travaillé pendant un an, puis que j'avais pas vu depuis quelques années, même des gens qui me suivent depuis le début, mais qui je travaillais pas forcément régulièrement, mais en tout cas, des gens qui me suivaient de loin dans la newsletter. Et là, pour le coup, ils ont pris du temps pour m'écrire, pour m'envoyer du soutien. Et je me suis rendu compte que, déjà, quand on est soi-même et quand on, et ça se vérifie, hein, quand on est plus aligné, quand on partage quelque chose de vulnérable, mais qui est profondément aligné, ça touche les gens, que ce soit sur ce sujet-là, mais sur d'autres, en fait, je reçois beaucoup plus de, je suis beaucoup plus en interaction et en échange et en partage avec les gens, parce que je partage quelque chose qui est vraiment de moi-même et qui, en plus, en lien avec le business, mais aussi très personnel. Et après, c'est ma manière de faire, hein, clairement. Et puis ouais, ça m'a permis de m'apaiser sur le fait que ma boîte n'allait pas couler du jour au lendemain à cause de ça. Et après, il y a le Covid, donc c'était encore un autre challenge.
Ouais, encore
mais ouais, en tout cas, j'ai fait ce choix-là parce que je me suis dit, bah, tu commences à communiquer, tu veux te mettre en avant, bah, sois toi-même et vas-y, et puis on verra bien ce qui va se passer. Quoi.
Et au final, tu as eu cette vague d'amour,
et
ce soutien.
J'ai eu beaucoup de soutien. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui n'osent pas s'exprimer. Mais tant mieux, hein, je pense que ceux qui avaient envie de dire des trucs méchants ne l'ont pas fait. Mais j'ai aussi reçu, j'ai reçu du soutien de mon réseau pro. Mais après, j'ai aussi d'autres histoires perso moins sympas et moins faciles. Mais étonnamment, les gens qui me connaissaient, soit depuis moins longtemps, soit moins personnellement, l'ont plutôt bien pris. Ou alors, c'était un non-sujet. Et c'était plus simple que dans la vie perso.
En tout cas, ça t'a permis justement de te libérer de pas mal de choses. Ça a été bien pris justement par cette communauté, et tant mieux, parce que c'est encore plus difficile si justement les gens ont du mal à accepter. Bon, après, il y a les gens qui disent oui, puis finalement derrière disent non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as aussi été toi-même dans cette démarche-là. C'est quelque chose que tu as préparé aussi sur le long terme en fonction des nouvelles relations que tu t'es créées. Donc, c'est un petit peu logique aussi que tu aies eu ce soutien, et tant mieux, et tout cet amour que
c'était une très belle surprise en tout cas.
Une belle surprise, et c'est bien, et c'est important de la partager avec nous aujourd'hui. J'en suis très content. On va passer à ta troisième première fois. Tout autre sujet, hein, on change un petit peu de thème, on cadre directement sur autre chose. On va parler de tes premiers bureaux, donc tu vois, c'est un petit peu différent. Mais c'est bien aussi de voir justement, après, au niveau entrepreneuriat, comment tu as pu évoluer, quelles sont un petit peu les premières fois qui ont été marquantes aussi par rapport à toi. Donc tes premiers bureaux, donc ça fait aussi beaucoup de networking de ce que tu me disais en off. Tes premiers bureaux, c'était quoi ? C'était où ? C'est la première fois que du coup tu peux travailler à distance ? Comment c'était ?
Ah, c'est un bon souvenir. À la fois un bon et un mauvais souvenir. C'est ce qui est très drôle. Donc, je suis arrivée à Lyon, je me suis installée en 2013. Et en 2014, donc je suis arrivée en septembre, et je crois que c'était moins d'un an après, je me suis installée dans un endroit où j'ai même fait mon bureau sur mesure. Donc, c'est un endroit qui était en travaux. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un bureau sur mesure. Donc, j'ai vraiment créé mon bureau dans un studio de vidéo et de location de matériel où il y avait un espace coworking au-dessus. Et donc, c'était un échange avec le gérant qui... il m'accueillait gratuitement en échange de faire de la photo pour lui. Donc, c'était vraiment hyper intéressant pour moi parce que du coup, j'allais sur des tournages, je faisais des photos, j'apprenais à maîtriser des caméras, j'ai fait de la vidéo pour lui. J'ai un peu aidé à l'aménagement parce que j'aime beaucoup l'aménagement d'intérieur et la déco. Du coup, j'ai aidé sur des trucs un peu basiques. J'ai aidé sur son site web. Tu vois, je lui donnais des coups de main sur de la com de manière assez large et de l'image. Et en échange, j'avais un bureau. Et je ne suis pas restée longtemps. Malheureusement, je suis restée 6 mois, je crois, 8 mois, parce que ça ne l'a pas fait du tout humainement. Et j'avais fait le tour. Mais c'était assez toxique comme environnement. Et vraiment, je suis sortie de là en me disant, bah, je sauve ma peau, parce que j'ai commencé à flipper. J'ai vraiment vécu du sexisme, de la pression, des biais de pouvoir... vraiment la classique, quoi. J'arrive dans le monde du travail et il y a un mec de 40 ans, 45 ans, dont j'en avais 22, 23, qui me prend sous son aile en me disant qu'il va me présenter tout son réseau, que compagnie. Et en fait, à la seconde où j'ai commencé à avoir mes propres clients, à faire des rendez-vous clients ici, dans le coworking et à signer des contrats, voire même à faire du réseau à base de son réseau, voire même j'ai été en coloc avec des personnes qui avaient son bureau là-bas. Donc vraiment, je m'étais implantée dans l'écosystème. Bah, il a commencé à me rabaisser, il m'a humilié plusieurs fois, il m'a commencé à mal me parler. Et c'était vraiment très dur.
Ouais, gros coup. Mauvaise ambiance.
Mais pour la petite histoire, ce qui était sympa, c'est que 5 ans après, après avoir fait mon chemin et voyagé dans plusieurs autres coworking, je suis revenu dans cet endroit qui a été racheté par d'autres personnes super cool. Et j'ai passé un an dans cet endroit qui avait été repimpé, qui avait été encore plus aménagé, parce que c'était vraiment un endroit qui avait beaucoup de charme. Il y avait un super studio et il y avait vraiment un très bel endroit. Et c'est un peu aussi ça que j'avais comme vision en arrivant, c'est que je voulais je voulais faire quelque chose de beau, d'accueillant, et parce qu'il y avait vraiment un potentiel dans ce lieu. Et finalement, je suis revenue 5 ans après, c'était ma dernière année à Lyon, et j'ai reclôturé la boucle en passant un an là-bas, bien affirmée, avec des gens super chouettes, et c'était vraiment très sympa.
Top, merci pour ce partage, cette expérience. Pas évident de toujours trouver les bons bureaux au départ. Des fois, on le fait de chez soi. Des fois, quand on a les moyens, quand on a la trésorerie, justement, on a signé des contrats, on peut se permettre d'aller soit en open space avec d'autres boîtes qui existent, soit avec ses propres bureaux. Donc, c'est plutôt une bonne chose quand ça arrive. Ça veut dire que ça se développe, l'activité en tout cas. On devait continuer avec une quatrième première fois et même une cinquième première fois. Mais moi, j'ai envie plutôt de te poser des questions justement sur les qualités essentielles selon toi qu'on doit avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat par rapport à ton expérience également. Mais quelqu'un qui nous écoute, voilà, qui hésite encore un petit peu à se lancer ou qui se pose des questions ou qui est en reconversion, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement sur ces aspects-là et quelles seraient les qualités à avoir pour démarrer ?
Eh ben, vaste question, parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai l'impression, malgré beaucoup d'erreurs que j'ai pu faire aussi au début, et du coup, je pourrais dire, ah bah tiens, en fonction de ces erreurs, je donne des conseils pour éviter ça. Mais en fait, je me rends compte que j'avais quand même déjà eu les conseils, les bons conseils avant. Donc, on m'avait dit de bien m'entourer, d'aller voir un psy.
Et tu les avais pas forcément écoutés.
J'avais pas forcément, je pense, le recul. Et j'avais, en tout cas, moi, besoin de tester aussi mes limites et de tester moi-même, me faire mon propre chemin. Et en vrai, la réalité, c'est que, en fonction de ta situation, c'est hyper compliqué de suivre des conseils à la lettre. Tu vois, quand tu as un handicap invisible ou que tu as une neuroatypie, en fait, les conseils qu'on va te donner ne sont pas forcément adaptés à toi. Donc, je pense qu'un des trucs, moi, qui m'a toujours guidée, c'est de s'écouter soi. Donc, c'est bien prendre les conseils des autres, mais en fait, la seule chose qui fait la diff, et pour le coup, il y a des choses aussi où j'aurais pu m'écouter beaucoup plus tôt, c'est de pas écouter les autres, quoi. C'est d'écouter son instinct. Tu vois, typiquement, si j'avais été un petit peu plus à l'écoute de mon instinct pour ce premier bureau, ben, j'y serais pas allée. Parce que j'avais senti le gars un peu foireux au départ et que j'ai été plutôt attirée par les paillettes, par le début.
C'est-à-dire qu'il y avait des doutes au départ.
Je doutais de moi et je pensais qu'en étant valorisée par ce mec qui avait l'expérience et qui avait aussi du réseau, ben, ça allait m'aider. Mais en fait, parce que j'avais pas assez confiance en moi. Donc, je pense que le point de départ pour éviter, je pense, beaucoup de choses, c'est d'écouter son instinct et de pas se laisser douter, en fait, de pas laisser les autres douter, te faire douter de toi-même. Parce que c'est pas dire non plus qu'il faut. C'est marrant parce que d'une année à l'autre, j'ai des conseils différents. Enfin,
on évolue. C'est
entre doute pas toi-même et remets-toi toujours en question, ce qui sont deux choses complètement opposées, mais en fait super nécessaires ensemble dans l'entrepreneuriat. Bah, c'est compliqué parfois de trouver le juste milieu. Donc, je pense que la boussole interne entre est-ce que je doute de moi, je me remets en question pour toujours évoluer et je me fais confiance. Bah, le juste milieu, c'est à toi de le trouver. Et de sentir les signaux de ton corps, quoi, à la fois pour éviter le burn-out, pour éviter les mauvaises collaborations, pour ne pas signer avec les clients qui sont foireux dès le départ. Il y a quand même beaucoup de choses. Souvent, quand on a un client foireux, après, on se dit « je l'avais senti, je ne me suis pas écouté ». Et encore aujourd'hui, j'ai dit non à une collaboration hier, et j'ai vraiment mis du temps à comprendre que ce que je ressentais, que je n'arrivais pas à verbaliser, c'était que je ne la sentais pas, en fait.
Il faut faire confiance à son instinct, c'est super important.
Et du coup, je dis excuse-moi, on est parti dans une discussion, en fait, on va pas discuter, je le sens pas, et c'est pas contre toi, c'est juste que je pense que le binôme, il va pas fonctionner, en tout cas, mon instinct, il me dit, il va pas, et c'est hyper dur à faire. ça demande de l'entraînement, quoi.
C'est pas évident. Et quand je t'ai proposé, justement, d'être sur le podcast mes premières fois dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que t'as dit ton instinct tout de suite ?
J'ai dit hell yes, direct.
Ah yes, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, de nous avoir confié beaucoup de choses, personnelles aussi. Je suis très content que tu aies pu le faire librement, en tout cas. C'est un podcast qui est ouvert justement pour parler de plein de choses liées à l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais l'entrepreneuriat aussi, il y a notre vie personnelle qui est impliquée. Donc, c'est important d'avoir un regard différent, de comprendre un petit peu ce que les gens ont tendance à juger quand ils ne comprennent pas. C'est un petit peu l'être humain. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, de comprendre. Donc, je suis vraiment très content d'avoir eu ton témoignage, d'avoir eu ton expérience également. Je te souhaite beaucoup de choses pour la suite. N'hésitez pas à mettre une petite note sympa, symbolique pour Alan, notamment. C'est un petit 5 étoiles sur les plateformes, notamment, où on peut écouter
les étoiles, podcast. Allez-y.
Plein d'étoiles, allez-y. Des étoiles filantes, non, on n'en veut pas. On veut des étoiles qui restent. Un petit commentaire également pour nous dire ce que vous avez pensé, notamment de l'épisode. Alan, encore une fois, merci pour ton invitation.
Merci à toi.
Pour l'invitation, c'est plutôt moi qui te l'ai envoyé. Mais merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Et puis, je te réinviterai. Ce sera avec grand plaisir, en tout cas, s'il y a un nouveau format. projets de ce type prochainement.
Merci beaucoup.
Merci à toi et je dis à tout le monde à très vite avec un nouvel invité justement pour parler encore une fois entrepreneuriat. À très vite, merci à tous. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.